Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodeur, le 1er mars 90.
Petite question. Est-ce que l'apparition de l'intentionnalité dans la vie sensible, par rapport à la vie végétative qui est substantielle, qui permet dans l'analyse la première distinction entre la vie affective et la vie intellectuelle, alors que dans l'exercice pratique, il n'y a pas de distinction formelle entre les deux, puisque l'un n'est jamais donné sans l'autre. Oui. Donc, alors, est-ce l'apparition ? Oui, la question. Autrement dit, la distinction, je reprends d'une autre manière, que vous compreniez bien la question. Autrement dit, la distinction entre vie affective et vie intellectuelle. Au fond, distinction que Hegel veut résorber dans la personne. Donc, l'ultime synthèse hegelienne. Personnalité prise d'une façon pure. Résorber ce qui pour Hegel n'est plus une distinction, mais une séparation, une opposition. Résorber cette opposition, cette antithèse de la tendance affective et de la tendance intellectuelle. La résorber dans la personne. Est-ce que cette distinction entre la vie affective et la vie intellectuelle repose sur l'apparition d'intentionnalité. Je crois bien comprendre la question. Le fondement de la distinction, c'est intéressant, puisque par rapport à Hegel, c'est très intéressant. Est-ce que le fondement de la distinction entre la vie intellectuelle et la vie affective, quand je dis à quelqu'un « je t'aime » et quand je dis à quelqu'un « je te connais », c'est pas la même chose. Et quand vous dites à quelqu'un, plus je te connais, plus je t'aime. Et quand vous dites à quelqu'un, plus je te connais, moins je t'aime. C'est deux choses quand même très différentes. Le domaine de la connaissance et le domaine de l'amour. Le bon pasteur connaît ses brebis. Et on dit tout le temps, la connaissance dans la Bible n'est pas la même chose que la connaissance. Alors, on essaie d'expliquer ça par la tradition, alors que c'est tout simplement parce que c'est la connaissance divine. C'est bien plus simple de dire ça que de le ramener tout simplement parce que, dans le mot connaissance dans la Bible, a une signification. Parce que c'est la connaissance divine, tout simplement. Et la connaissance divine est au-delà de la distinction. Ce que Hegel a très bien compris. Vous voyez comme il est théologien. La connaissance, dans le sens profond biblique, n'implique pas la distinction entre affectif et connaissance. Quand le Christ dit prior dilexit nos, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a connus le premier. Qui nous a aimés le premier. Parce que la connaissance de Dieu auprès de nous est une connaissance affective. Connaissance aimante. La foi est une connaissance affective, connaissance aimante, donc réaliste, affectivement et intellectuellement. Tandis que nous avons, nous, un mode abstrait. Alors, attention, je dirais que la distinction entre vie affective et vie intellectuelle repose sur l'abstraction, qui, elle, se manifeste par l'intention. Ce n'est pas l'intentionnalité qui est le fondement, c'est l'abstraction. C'est pas tout à fait la même chose. Nous avons un mode abstrait de connaissance. Et ce mode abstrait implique la distinction entre l'intentionnalité et l'aspect existentiel. Et profondément, ça repose sur le fait que notre connaissance est une connaissance abstraite. Bergson, Hegel ne veulent pas accepter l'abstraction. Je crois que c'est ça, en fond. C'est le refus de l'abstraction. Et on veut résorber l'abstraction par la dialectique. Et la dialectique doit absorber l'abstraction. On n'accepte pas humblement que notre connaissance est une connaissance abstraite. Et pourquoi notre connaissance est une connaissance abstraite? Parce que notre intelligence est liée aux sensations. Selon Avicenne, il y a une abstraction au niveau sensible. C'est évident qu'au niveau sensible, il y a une abstraction. Puisqu'au niveau sensible, quand vous regardez la rose rouge, écarlate, vous ne devenez pas écarlate à cause de ça. Je te regarde. Oh, en te regardant, je deviens écarlate comme toi. Non, ça c'est une projection psychologique. Vous regardez la rose écarlate dans votre vision de la rose. Intentionnellement, vous devenez écarlate, mais intentionnellement, pas réellement. Quand vous sentez la bonne odeur, le mercredi des cendres, des petits bains frais, parce que plus vous avez faim, mieux vous sentez l'odeur des petits bains frais. Alors quand vous sentez la bonne odeur du petit bain frais qui vient de la boulangerie à 4h du matin et que vous absorbez ça, vous prenez un petit déjeuner merveilleux, intentionnellement, mais pas réellement. Vous voyez ? Et donc, dans la sensation, une abstraction. C'est bien évident. C'est une assimilation intentionnelle. Alors, on ne parle pas d'abstraction. Pourquoi on ne parle pas d'abstraction? Avicenne parle d'abstraction. Saint Thomas l'a pourtenu. On ne parle pas d'abstraction parce que j'ai besoin de la présence physique. Vous voyez, l'intentionnalité reste liée au point de vue physique. Tant que la rose est présente, je peux la voir. Si elle est absente, je ne vois plus. Donc mon intentionnalité à l'égard de ma vision est une intentionnalité qui reste très accidentelle. Elle dépend de la présence de la rose. Et donc l'abstraction n'est pas parfaite. C'est l'abstraction en devenir. Vous voyez, causalité analogique, causalité univoque. J'ai besoin de la présence de la rose pour le voir. Et donc, je reste en dépendance de l'existence de la rose. Mon abstraction n'est pas parfaite. Si elle était parfaite, je posséderais la forme intentionnelle de la rose. Et la rose pourrait être absente, et je la posséderais, ce qui existe au point de vue intellectuel. La rose étant absente, je peux penser à la rose. Nous pouvons tous penser à la rose. Et je sais en pensant à la rose que je ne la vois pas. Je la vois imaginativement. Je me la représente de l'ordre de la représentation. Mais je la pense, je me la représente, mais je ne la sens pas. Si vous êtes suffisamment éveillé, vous faites ça facilement. Si vous êtes très fatigué, vous pouvez avoir des hallucinations. Je pense à la rose. Où la rose est là, j'y pense, je me la représente. Et je la représente tellement que cette représentation pour moi devient quelque chose de réel. Oui, je la vois, apparition de la rose. Vous voyez les apparitions comme des divisions. Est-ce que c'est une apparition réelle ou c'est tout simplement votre imagination qui est tellement forte que vous n'arrivez plus à distinguer l'imaginaire et le réel? Les hallucinations au désert. Les êtres affamés ont des hallucinations. Comme c'est difficile, il faut reconnaître ça. Les hallucinations, c'est le passage. Et là, c'est très très connu. À ce moment-là, vous ne faites plus la distinction entre l'intentionnalité et le réel. Alors, c'est vrai, il est un peu fou. Il commence à... veut dire. Le Saint-Père marche du chapeau. Il croit que ce qu'il a fait, c'est la réalité, que c'est l'Europe. C'est pas du tout l'Europe, regardez ce que c'est. Il construit. Et c'est le passé. C'est déjà dépassé. Et il reste sur ce passé. La Madeleine de Proust, c'est ça. Il rêve. Différence, c'est bien la distinction entre le point de vue de l'intentionnalité de ma connaissance sensible et le point de vue, c'est qu'il y a une certaine abstraction. Mais quand je sens la rose, je sens quelque chose de réel, c'est sûr, parce que l'intentionnalité sensible est liée au jugement d'existence. Mais c'est quand même autre chose, la sentir. Et la toucher. Ce qui montre bien qu'il y a une certaine abstraction quand je la sens, ou quand je la touche, ou quand je la vois. Oui. Si il n'y avait pas abstraction, la voir serait la toucher. L'abstraction se manifeste dans la diversité que j'ai comme contact. Et donc mon contact visuel n'est pas mon contact tactile. Ce qui prouve que mon contact visuel est partiel. Je ne vois qu'un aspect. Mais au niveau sensible, c'est vrai, je la vois. Et c'est lié au jugement d'existence. Dans ma sensation. Mais ce n'est pas ma sensation qui me donne le jugement d'existence. Ça va, suffisant. Autre question. La dernière fois, nous avons vu que l'amour requiert une certaine appréhension du bien. L'Église nous dit que le moment qui précède la foi est la pia affectio, qui tout en étant un amour, précède la foi, c'est-à-dire la connaissance. Alors, faut-il essayer de comprendre où sommes-nous devant un mystère? Oui, faisons attention, la foi comme telle est un mystère, de sorte que quand je fais la théologie de la foi, je fais la théologie d'un mystère. Je ne veux pas expliquer ce que c'est que la foi est un mystère que nous portons en nous. Le croyant en tant que croyant reste croyant. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'expliquera jamais à un incroyant ce qu'est la foi. Il ne peut pas l'expliquer. C'est un mystère. Mais il peut montrer que ce mystère n'est pas en contradiction avec les exigences profondes de son intellect. Analogies pour montrer ça. La foi, si elle fait le lien entre la créature et le créateur, entre l'homme et Dieu, la foi, si elle est le premier moment de ce contact, elle est en vue de la vision béatifique, comme celui qui se met au point de départ d'un enseignement commence par croire. Il a la foi en son maître. Le jour où il n'a plus la foi en son maître, tout l'enseignement du maître deviendra idiot. Il se mettra à murmurer. Et c'est exactement comme ça qu'il se passe par rapport à Dieu. J'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu. Et dans la mesure où je crois, la Bible devient un livre merveilleux. Mais comment je commence à Dieu la Bible? C'est en contradiction constante avec la science. C'est idiot de raconter l'apparition de l'homme comme ça, contraire complètement à la science. Oui, parce que j'ai perdu cette confiance à l'égard de Dieu. Alors, on fait l'analogie, vous voyez, c'est une analogie, mais ça n'explique pas le mystère de la foi. Le mystère de la foi reste toujours un mystère, et la théologie ne supprime pas le mystère. Et quand la théologie veut essayer d'analyser scientifiquement ce qu'est la foi. Le théologien sait très bien que la foi demeure un mystère pour le théologien, puisque toute sa théologie repose sur la foi. Je n'explique pas ce que c'est que la foi. Alors, comprenez bien, quand on montre qu'au point de départ de la foi, il y a la pia affectio, il y a un amour qui vient de Dieu. Cet amour qui vient de Dieu me fait comprendre, voyez, analogiquement, que pour croire en quelqu'un, à son enseignement, il faut ce lien affectif avec lui. S'il n'y a plus ce lien affectif, je ne pourrais pas recevoir. Parce que c'est l'affectivité, l'amour, qui ouvre mon intelligence à quelque chose qui dépasse l'intelligence. Et quand il est dit dans l'Écriture que Joseph et Marie ne comprirent pas ce que Jésus disait, cinquième mystère joyeux, ils ne comprirent pas. On ne dit pas du tout qu'ils n'ont pas reçu. Ils ont reçu la parole du Christ. La preuve, c'est que Marie la communique ensuite. Ils ont reçu la parole du Christ. Ils l'ont gardée, mais ils n'ont pas comprise. C'est ça le problème de la foi. C'est de garder une parole qu'on ne comprend pas. Comment pouvons-nous garder une parole qu'on ne comprend pas? Par l'amour à l'égard de la personne qui nous parle. Le testament d'une mère, testament d'un père, c'est de garder quelque chose qui nous a été communiqué, qu'on ne comprend pas, mais on est lié à la personne qui nous le communique. Et c'est cette confiance à la personne qui nous le communique qui nous permet de garder cette parole. Autrement, on ne la garderait pas. Instinctivement, psychologiquement parlant, dès que vous êtes en face de quelque chose que vous ne comprenez pas, vous le rejetez. Inassimilable. Et vous le rejetez. Comment se fait-il que vous gardez une parole que vous ne comprenez pas? Grâce à la foi. Et ceci, c'est vrai, même au point de vue humain, analogiquement. Un ami vous dit quelque chose. Ah, c'est un ami qui me le dit. Ça doit être intelligent. C'est pour moi. Alors je le garde. Mais si c'est un ennemi qui vous dit quelque chose, oh non, c'est un ennemi, je le rejette. Et vous continuez votre route en l'oubliant complètement. Tandis que quand c'est un ami, vous le retenez. Il y a des choses comme ça dans votre vie qui restent. Pourquoi? Parce que ça a été donné par quelqu'un qui vous intéressait. C'est en ce sens-là que dans tout enseignement, ce qui est premier, c'est la foi. C'est la confiance. Pourquoi quelqu'un profite-t-il d'un cours et quelqu'un n'en profite pas? C'est-à-dire, ah, c'est à cause de son intelligence. Mais non, c'est parce que l'un désire découvrir la vérité et l'aime sans l'avoir encore. Et aime celui qui communique cette vérité. Alors il la reçoit. C'est la foi qui est au point de départ de la connaissance. Fidèle. Et au plan surnaturel, c'est comme ça. C'est très mystérieux, mais c'est comme ça. C'est l'amour. Alors, l'amour présuppose la connaissance. Vous voyez, alors là, vous allez me dire, c'est la poule et l'œuf. C'est ça la question, c'est la poule et l'œuf. Alors, vous avez l'amour, connaissance. Tout amour présuppose la connaissance. Donc la connaissance est première. Or, vous me dites que pour la foi, qui est une connaissance, l'amour est premier. Donc il y a un déraillement. Je ne comprends plus. C'est ça l'objection. Alors, est-ce que vraiment la connaissance est avant l'amour? Ou est-ce que l'amour est avant la connaissance? sais pas si c'était la poule et l'œuf, je sais pas. L'œuf, c'est plutôt la connaissance. Et la poule, c'est plutôt la source. C'est amour, connaissance, foi. Alors, première remarque. La foi, c'est la connaissance primordiale et fondamentale. La foi, c'est quand je ne connais pas. Donc la foi implique à la manière hegélienne. À la manière hegélienne. Vous voyez, c'est intéressant. À la manière hegélienne, la foi implique la non-connaissance. C'est une connaissance qui est non-connaissance. Hein? Vous venez le dire. C'est une connaissance qui est non-connaissance. Pour Hegel, ça va très très bien. Ça montre bien que toute ma vie de foi est dialectique. Ma foi est non-connaissance. Vous êtes tous d'accord. Alors, parce que ma foi est non-connaissance, il faut transformer la non-connaissance en amour. Si ma foi était connaissance, j'aurais pas besoin d'amour. Mais ma foi est non-connaissance. Alors, quelle est la synthèse, connaissance et non-connaissance ? La foi. La synthèse. C'est vrai que la foi est connaissance et non connaissance. Je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas nier que la foi est connaissance et non connaissance. Vous voyez, la foi est à la fois être et devenir. Puisque la foi, c'est pour le croyant qui est pèlerin, qui n'est pas encore arrivé à la patrie et puis tend vers la patrie. Donc, on a un pied sur la terre et un pied dans le ciel. Ou si vous voulez, la tête dans le ciel et un pied sur la terre, si vous aimez mieux, tu vois, pour être comme la femme de l'Apocalypse. Elle a la tête enveloppée des 7 étoiles, donc elle est dans les 12 étoiles, donc elle est dans le ciel. Et puis elle a les 2 pieds sur la lune. Donc elle est lunaire et céleste. Et alors, la foi, connaissance et non-connaissance. Et ça, c'est la foi. Alors, en réalité, je ne dis pas ça. Je dis que la foi est connaissance et amour. Alors, à la place, non, mais non connaissance, je mets amour. Alors, je n'ai plus la dialectique hegélienne. Et je saisis que le point de départ de la connaissance réclame l'amour. Qu'il ne peut pas y avoir de première connaissance sans un amour. Alors, je suis dans l'aspect génétique. Vous voyez ? Dans l'aspect génétique. Et dans l'aspect structure. Donc, l'ordre de nature. L'ordre de perfection, si vous voulez. La génétique, c'est l'imparfait vers le parfait. philosophique primordiale au niveau de notre vie chrétienne. Un chrétien qui ne recherche plus la vérité n'est plus un chrétien. Alors il tombe dans la pratique. Il ne veut plus rechercher la vérité. Et nous devons réveiller les chrétiens parce qu'ils ne recherchent plus la vérité. C'est pour ça qu'ils se laissent prendre par les sectes. Parce que les sectes donnent une espèce de soif, d'enthousiasme. On cherche uniquement ça. On cherche le sensible. On a besoin du sensible. Le sensible, c'est pour le point de vue spirituel. Le sensible n'est pas premier dans notre vie. Alors, voyez, cette première connaissance, c'est parce qu'elle est première, elle a besoin de l'amour. Un amour naturel, spirituel, mais naturel. On a un amour naturel premier qui porte sur le bien de mon intelligence, le bien d'esprit, qui est un amour naturel de vérité. Il y a un amour naturel de vérité. Il y a un amour spirituel de vérité. Et cet amour, alors, au plan surnaturel, est un don de Dieu. C'est un amour de la vérité révélée. C'est parce que j'ai cet amour à l'égard de la vérité révélée. Cet amour révélé qui vient de Jésus. C'est parce que cet amour, ici, il est surnaturel. Pour la foi, c'est parce qu'il y a ce premier amour surnaturel qui vient de Dieu et qui vient de l'Esprit Saint. À l'égard de Jésus, qui pour moi est la vérité, que j'adhère. Et ma foi est une connaissance surnaturelle. Ici, j'étudie ce qu'est l'amour. Donc je suis dans un ordre de nature. Tout amour présuppose une connaissance. C'est pas contradictoire, puisque nous sommes dans deux ordres différents. Dans l'ordre du devenir et dans l'ordre de l'être. Est-ce que vous voyez bien ça? Ça c'est capital, autrement. Alors je ne vois plus. Et c'est tout le temps comme ça. Vous voyez, arriver à comprendre ces deux perspectives différentes. La perspective génétique et la perspective de l'analyse de nature. On a de la peine à comprendre ça aujourd'hui. Parce qu'on est tous infectés de la dialectique hegelienne. C'est l'hegelianisme qui demeure. Alors on croit qu'il n'y a que l'ordre génétique, un ordre dialectique. Il ne faut pas oublier que dans la dialectique hegelienne, le devenir absorbe l'être. Donc l'aspect génétique absorbe l'ordre de nature. Et si le génétique absorbe l'ordre de nature, il n'y a plus de contemplation. La contemplation, c'est fini. Et alors on tombe dans l'agitation. Et quand on n'est plus dans l'agitation et qu'on est dans le repos, on ne sait plus quoi faire. La vie n'a plus de sens. C'est très fort, vous savez. On respire l'air hegelien. La pollution intérieure. C'est le premier type de connaissance. Je commence par croire. On a tous fait ça. Et on oublie. Et on ne va pas l'accepter. On a commencé par croire. On a commencé par ne rien comprendre du tout. À ce moment-là, on n'avait pas assez d'intelligence pour se refuser. Le jour où on a commencé à avoir suffisamment d'intelligence pour refuser, on s'est dit non, je ne veux accepter que ce que je comprends. Très bien, mais vous n'avancerez pas. Vous resterez immature toute votre vie. Parce que vous n'acceptez pas le sycomore qui vous permet d'aller plus loin. Vous n'acceptez pas la situation propre de l'homme qui est un être qui devient. Mais il devient avec une finalité. Et la finalité est donnée dès le point de départ par l'amour. Oui. Il y a un amour premier, un amour naturel. Et un amour surnaturel. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut d'abord naître. C'est une naissance de l'esprit. L'esprit, c'est l'amour. Et l'eau, c'est le concours. Notre pauvre petite intelligence, notre bonne volonté. Oui. Il faut bien comprendre ça, que dans l'ordre de la foi, il y a cette primauté de l'amour. Mais d'un amour qui vient de Dieu, ou d'un amour naturel. Ce qui est premier dans l'ordre génétique, c'est l'amour. Tu restes très beau. Ça. Ce qui montre que d'une certaine manière, c'est ultime aussi. Et c'est vrai, ce sera ultime aussi. Toute la connaissance se termine dans l'amour.
Oui, donc, si la connaissance se termine dans l'amour, selon l'ordre de perfection, l'amour est plus parfait.
Non, l'ordre surnaturel. Alors, vous direz, dans l'ordre surnaturel, il y a la vision de Dieu. Et dans la vision de Dieu, amour et intelligence ne font plus qu'un. C'est pas une synthèse, c'est divin. La vision béatifique, c'est une vision d'amour. Puisque Dieu est amour. Oui, juste dans l'ordre surnaturel. Dans l'ordre naturel, n'est-ce pas, au sens tout à fait fort, je resterai toujours en tendance vers une fin qui me dépasse. Et donc, l'amour sera toujours là. Parce que dans l'ordre naturel, je suis toujours un être relatif à. Je n'ai pas une autonomie parfaite.
Oui. Est-ce que vous pourriez préciser la différence entre une condition sine qua non et une cause?
Oui. La condition sine qua non. Je suis dans deux types de connaissances différentes. La connaissance du TST et la connaissance du pose. Le pose me permet de déterminer les conditions sine qua non. Je suis donc dans une analyse beaucoup plus grossière. Si B existe, A existe. A est condition sine qua non. B ne peut pas exister sans A. C'est un fait. Je le constate. Tandis que la cause implique une analyse j'essaie de comprendre et d'analyser les différents liens de nécessité. Et je cherche les premiers. Tandis que la condition sine qua non est toujours relative. La condition sine qua non, elle est à l'intérieur d'une loi. C'est la loi qui me donne les conditions sine qua non. Et je ne cherche pas plus. Pour que B existe, il faut l'ADN, au point de vue analyse biologique, pour que la vie existe, il faut l'ADN. Condition sine qua non. Si je ne trouve pas ça, il n'y aura pas de vie. Et ça ne me dit pas ce que c'est que la vie. Oui. Et c'est là qu'on voit le tour de passe-passe. On dit, c'est une condition sine qua non. Donc c'est la structure. Pas du tout. Condition sine qua non. Et alors, Kant fait de la matière une condition sine qua non. C'est très très curieux. Parce qu'il n'étudie plus, il n'analyse plus. Cherche les lois.
sine qua non, je ne peux pas savoir si, de quel type c'est. C'est uniquement l'antécédent. Pour que B existe, il faut A. Condition sine qua non pour que B existe. Qu'est-ce que c'est que A? Ah, je ne sais pas. C'est l'antérieur. Je ne cherche pas à savoir. Vous voyez? Donc la condition sine qua non implique toujours des causalités. Et je ne l'ai pas analysé. Ça implique toujours des causalités, c'est évident. Puisqu'il y a une dépendance réelle entre A et B. Puisque B ne peut exister que si A. Donc il y a une dépendance réelle. Dans la loi, il y a une dépendance réelle. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose de mon intelligence ou si c'est réel. Je ne distingue pas. Oui.
Si on prend un exemple, par exemple, connaissance et volonté,
oui.
Que j'aime un fruit, il faut que je l'ai déjà goûté.
Oui.
Là, il y a quelque chose de réel.
Oui.
La condition sine qua non de l'amour du fruit, non seulement est antérieure à la condition sine qua non, mais aussi il y a une causalité.
Tout à fait. Il y a une causalité. C'est pour ça que je dis, la plupart des conditions sine qua non impliquent des causalités. Mais pas toujours. Mais dans les lois les plus abstraites, l'aspect de la connaissance devient de plus en plus fort. Oui, c'est tout à fait la situation de la connaissance biologique, la science biologique et la science physique par rapport aux mathématiques. Dans quelle mesure c'est les mathématiques, oui, qui formalisent et en formalisant me met la condition sine qua non. Et cette condition sine qua non est-elle, du côté de l'intelligence, cause exemplaire, le modèle, ou est-elle de la réalité? Je ne peux pas le savoir. Connaissance de tradition, connaissance d'expérience. Alors, il y a une connaissance du